Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre participation. Merci au Journal La Provence de nous avoir ouvert une nouvelle fois les colonnes de sa rubrique du Mistral dans les idées pour annoncer les deux conférences, celle de ce soir et celle de lundi prochain sur Travail et Liberté, hier et aujourd'hui. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Enrico Donaggio. Enrico Donaggio est professeur au département de philosophie et sciences de l'éducation à l'Université de Turin, en Italie, bien sûr. Il est également résident à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherches avancées à Marseille, depuis 2018. Enrico Donaggio s'intéresse à l'impact des mutations contemporaines du travail sur la liberté et plus largement aux théories philosophiques et historiques de la modernité, aux théories du mal politique et aux théories critiques de la société. Mais il vous en dira davantage parce que c'est lui qui va se présenter plus complètement et qui va vous faire cet exposé. Enrico, tu disposes de plus ou moins une heure d'exposé qui sera suivie d'une discussion avec les participants. Encore grand merci, Enrico, d'avoir accepté de participer à cette vidéoconférence. On devait déjà l'an dernier, on avait prévu d'organiser une conférence, cette fois en physique, et qui a dû être annulée à cause de la pandémie. Et cette année, j'ai souhaité ne pas non plus remettre encore une fois cette conférence, et tant pis si on doit la faire sous forme numérique. Merci, merci, merci Enrico, et c'est à toi quand tu veux.
Merci à toi, Jean-Pierre. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, merci à toi et à l'Université Populaire de m'avoir invité et d'avoir invité Arlib, donc l'atelier de recherche Travail-Liberté, basé à l'IMERA, actif à l'IMERA depuis 2019, que j'ai le grand plaisir et privilège de coordonner. Comme tu l'as déjà évoqué, la conférence de ce soir est la première conférence dans mini-cycle, dans tout petit cycle de deux conférences, qui voit comme intervenants trois membres de ce collectif Arlib. José Rose, Christophe Massot, qui seront les protagonistes de la prochaine conférence, celle du lundi 3 mai, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas tromper, et celle de ce soir. Donc, vous devez avant tout considérer ces deux conférences, Travail et Liberté aujourd'hui, partie 1 et partie 2. Et moi, je m'occuperai plutôt, disons, de l'intro, du préambule, de la préparation du terrain. Mon souci principal ce soir sera de donner, si vous voulez, un peu de profondeur historique, de vous fournir quelques éléments conceptuels, de vous citer quelques auteurs, quelques ouvrages, de vous illustrer, disons, quelques thèses fondamentales pour mieux vous orienter, pour mieux apprendre et surtout pour mieux apprécier la conférence de la semaine prochaine. Et dans cette division de travail au sein de notre collectif, moi, ce soir, je m'occuperai plutôt de Travail et Liberté hier. Et par contre, la semaine prochaine, Christophe et José vous parleront de Travail et Liberté aujourd'hui. Travail et Liberté aujourd'hui, qui est le vrai thème au cœur, disons, de recherche et des activités d'Arlib. Donc, pour vous expliquer en 30 secondes qu'est-ce qu'on fait à l'IMERA depuis 3 ans, bien sûrement on fait une activité publique plutôt classique, on organise des conférences, on discute avec des spécialistes, ces conférences deviennent après les chapitres dans le livre. Donc, on va, début de l'année prochaine, chez RS, on va publier un livre qui aura le titre Travail, liberté aujourd'hui. Mais si vous voulez, le point de départ était un constat plutôt incrédule, plutôt amer, face à la manière dans laquelle, dans le débat public et dans le débat de spécialistes aujourd'hui, la question du travail est abordée. Alors là, je simplifie jusqu'à la caricature, bien au-delà. Mais si on me posait la question de quelle manière le travail aujourd'hui, l'objet d'études, de recherches, de discours publics, moi je dirais que si vous voulez, il y a encore une sorte de pensée noble, une pensée de gauche. Je suis malheureusement un homme de gauche, donc je considère la partie gauche de la pensée, l'hémisphère gauche, l'hémisphère noble de notre cerveau. Et bon, et ces positionnements, cette position, disons, dans les fronts de la critique, du combat idéologique, considèrent, et ils ont pleinement raison à faire ça, ils n'ont pas tort à faire ça, faut que ce soit clair, considèrent le travail aujourd'hui surtout comme une presque inépuisable source de souffrance. Pas exclusivement de la souffrance physique, mais aussi, et là, si vous voulez, c'est un peu la grande nouveauté, surtout du débat français à partir des années 80-90, de souffrance psychique. Là, c'est vraiment un élément de grande nouveauté. Face à cette critique noble, sérieuse, animée par des grandes intentions et qui s'alimente d'une grande tradition, il y a une position qui, encore une fois, de manière caricaturale, un peu vulgaire, on pourrait définir néolibérale. Et, disons, face à une représentation du travail comme source presque exclusive de souffrance, il y a la position dominante aujourd'hui, celle qui organise, qui domine la manière dans laquelle la plupart de nous travaillent et la manière dans laquelle le discours, la discussion, l'idéologie dominante du travail aujourd'hui s'organise. Et cette partie, disons, prétend d'avoir une sorte de droit du monopole sur une dimension de la vie humaine, notamment la liberté, qui, une fois, dans la tradition de gauche, et c'est un peu de ça que je vous parlerai ce soir, était intimement liée de manière conflictuelle, qui alimentait des espoirs, au travail. Alors, je m'invite à vous citer le discours socialiste, la perspective communiste, d'une certaine manière aussi la perspective anarchiste, les syndicats, etc. Vous le savez mieux que moi, ce sera un peu l'objet de la conférence de ce soir. Il y a eu une longue période, disons au moins le 19e et une bonne partie du 20e siècle, dans laquelle le travail alimentait des espoirs individuels et collectifs de libération, d'émancipation. Eh bien, aujourd'hui, de tout cela, apparemment, ne reste presque rien. Donc, pour le front qui a nourri pendant deux siècles cette espérance d'émancipation, le travail se réduit presque exclusivement à souffrance, souffrance contre laquelle, bien sûr, il faut lutter, il faut résister, il faut intervenir. Et de l'autre côté, avec tout un vocabulaire de flourishing, empowerment, épanouissement, autoréalisation, bonheur, toute une rhétorique de la libération néo-capitaliste est mise en œuvre. Et donc, Arlib naît, si vous voulez, l'espoir hyper modeste de changer un peu ce paysage. Et tout en se posant les questions si, d'une manière qui ne se veut pas nostalgique, rhétorique, de passé, obsolète, mélancolique, on pourrait encore une fois, à gauche, renouer d'une manière, disons, à la hauteur de notre époque, donc le 21e siècle, pas le 19e, en lien intéressant, séduisant et mobilisateur entre travail et liberté. Deux dimensions, vous le comprenez très bien, et là je démarre un peu, j'entre un peu dans la conférence, deux dimensions qui apparemment n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre. On peut démarrer cette conférence en analysant de manière hyper rapide les deux mots-clés. Alors travail, ça c'est une sorte d'ouverture obligée pour chaque spécialiste du sujet, c'est de faire un petit commentaire sur l'étymologie du mot. Alors, dans la presque totalité des langues indo-européennes, la racine étymologique du mot travail est très ambiguë et extrêmement intéressante. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, elle est conflictuelle. Moi, je soutiens la thèse que le travail, pas seulement le concept de travail, mais toute activité de travail est intrinsèquement conflictuelle. C'est quoi cette double racine conflictuelle? D'un côté, travail évoque la dimension de la souffrance, de la torture, hein, c'est très pallium. Donc, c'était une manière de crucifiger les esclaves qui se rebellaient. Hein, trois bâtons, c'est ça qui signifie très pallium. Et de l'autre côté, dans presque la totalité des langues, je viens d'Italie, donc dans la totalité des dialectes, par exemple, en Italie, travail, ça signifie accouchement. C'est la phase qui précède l'accouchement. Et donc là, vous voyez d'un côté la torture insensée, la torture gratuite, la torture extrême, donc le travail comme le prix qu'il faut payer, hein, pour gagner son pain avec la sueur de la front. Et de l'autre côté, par contre, le travail comme sorte de prélude nécessaire pour mettre au monde quelque chose de nouveau, pour engendrer de la vie, pour créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, entre travail et liberté, à mon avis, il n'y a qu'un premier regard, un regard très superficiel, une relation d'opposition, d'antithèse. Si on commence un peu à creuser, ce soir, on n'a pas le temps de le faire, mais j'imagine que José, Christophe, nous parleront un peu de ça. Alors là, on découvre que même à l'intérieur de l'activité de travail la plus opprimée, la plus exploitée, la plus aliénée, il y a toujours une étincelle de possibles libertés, de possibles conflits, de possibles résistances, et que, si vous voulez, symétriquement, l'idée que la liberté soit quelque chose de légère, de facile, de sexy, est, je pense, l'idée la plus stupide que l'on puisse avoir de la liberté. La liberté fait peur. La liberté, elle est lourde. Il y a très peu de gens, malgré toute la rhétorique dominante en matière, qui vraiment font de la liberté l'étoile polaire de leur vie. Dans la plupart, on est toujours dans la décharge, on est toujours dans le tentative, dans l'essai, disons, de se faire diriger par les autres, dans l'instinct grégaire. Je ne parle pas de servitude volontaire, qui est un phénomène hyper intéressant à discuter, mais disons, tous les grands événements historiques nous démontrent ça. Le nazisme, juste pour citer un exemple. Alors, moi, je commencerai par ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une sorte de voyage dans l'histoire, en ayant comme fil rouge le couple travail et liberté. Ce voyage se fera en cinq étapes, très rapides, pas plus que 10 minutes pour chaque étape, ou même moins. Le voyage démarre de la situation contemporaine. Situation contemporaine que je définirais à travers la formule invisibilisation du travail. Alors, moi, je pense qu'on peut nommer, on peut définir une époque selon la relation qu'elle a au travail, hein, selon l'importance, la valeur, la centralité qu'elle reconnaît à cette dimension fondamentale de la vie humaine. C'est le travail qui fait l'homme, hein, pas le contraire, ça c'est clair. Ce n'est pas l'homme qui travaille, c'est le travail qui produit l'homme. C'est Marx, Engels, cité à la lettre, c'est quelque chose de très évident. Alors, si on se pose la question, mais notre siècle à nous, ce moment historique à nous maintenant, le début, si tragique, avec une pandémie si complexe, une crise économique avant, une pandémie après, ce début du XXIe siècle, si l'on voudrait le nommer par rapport à sa position au travail, ben moi je vous dirais, c'est l'époque de l'invisibilisation du travail. Et je vous propose cette thèse en opposition à la thèse dominante aujourd'hui, qui par contre est celle de la fin du travail. Alors, si vous lisez aujourd'hui un journal, une revue, si vous participez à un débat, vous entendrez tout le monde parler de fin du travail. Les robots qui arrivent, les algorithmes qui dominent, l'intelligence artificielle qui crée des machines intelligentes qui, dans une sorte de perspective d'automatisation globale, vont remplacer les humains. Moi, je pense que nous ne vivons pas à l'époque de la fin du travail. Ça, c'est une mauvaise prophétie. Si ancien que le travail, il n'y a rien de nouveau si on étudie, si on connaît l'histoire dans cela, mais c'est plutôt l'époque de son invisibilisation. Et je vous expliquerai qu'est-ce que j'entends par ça. Deuxième étape, contrairement à la rhétorique de la nouveauté absolue, invisibiliser le travail, c'est quelque chose, c'est un dispositif, c'est une dynamique qui existe depuis les origines. Bon, si on se pose la question, mais le travail à Athènes ou à Sparte, dans l'Antiquité, à Rome, il était considéré comment? Et là, vous verrez tout de suite que aussi dans l'Antiquité occidentale, moi je ne parlerai que de l'histoire occidentale, la seule que je connais, donc j'avoue toute mon ignorance, mon discours n'a aucune prétention globale ni interculturelle. Et bon, là, le travail était l'activité obscène par excellence. C'était les esclaves qui travaillaient, c'était les prisonniers de guerre qui travaillaient, c'était les femmes, c'était les animaux. Donc, le vrai être humain ne travaillait pas, il faisait la politique. Il s'est consacré à la politique sur la base cachée, refoulée, invisibilisée du travail du 99% de la population. Il y a une grande coupure épistémologique, idéologique, scientifique, politique, qui correspond plus ou moins aux deux grandes révolutions qui ont caractérisé la modernité, la révolution protestante et la révolution industrielle. Et à partir de ces deux révolutions, troisième étape, le travail commence à devenir ultra visible, invisibilisé, refoulé et caché comme une activité indigne d'un être humain. Il commence peu à peu à devenir l'activité humaine par excellence. On parle de invention du travail, c'est André Gortz, probablement le meilleur philosophe du travail français du XXe, avec Simone Weil. Après, quatrième étape, le XIXe siècle, l'explosion du travail. Après l'invention, après le début, l'explosion. Le travail qui devient idéologie, qui devient, disons, le feu qui nourrit, qui alimente la lutte entre les deux grands protagonistes du monde du travail de l'époque, la bourgeoisie et le prolétariat. Donc nous avons le travail qui crée les deux grandes figures politiques, sociologiques, littéraires, esthétiques, qui colonisent l'imaginaire du 19e. Pour arriver, et là, le voyage sera terminé, et je céderai symboliquement le relais à José Rose et Christophe Massot pour vous parler du travail aujourd'hui à leur manière, pour arriver au XXe siècle, qui est le siècle à la fois, à mon avis, de la normalisation du travail, de sa routinisation, mais aussi, si vous voulez, le début du grand désenchantement qui domine aujourd'hui. Je ne sais pas si la plupart de vous ont une quelque familiarité avec la formule « les compromis fordistes », c'est-à-dire l'échange conscient que la plupart de nous fait ou bien a fait au moins jusqu'à la fin de 30 glorieuses entre exploitation et aliénation d'un côté et pouvoir d'achat de l'autre. On paye au boulot ce qu'on gagne après au supermarché ou chez Amazon. On paye en tant que travailleur ce qu'on gagne en termes de liberté en tant que consommateur. Et ce clivage entre la figure du producteur, du travailleur et la figure du consommateur, il domine encore aujourd'hui. Bien, alors, si ce chemin, si ces cinq étapes esquissées et ultra rapides, presque caricaturales, vous sont claires, moi je partirai un peu du début. Donc, la thèse selon laquelle aujourd'hui le travail est invisibilisé. Alors, ça c'est très important. Il n'est ni invisible, ni inexistant, ni en voie de disparition, comme le voudrait la thèse, la grande narration, le grand slogan de la fin du travail. Exemple, c'est une thèse, la thèse de l'invisibilisation du travail, qui peut être avancée à différents niveaux de radicalité. Bon, le niveau le plus banal, commander une pizza chez Uber Eats, faire un achat, une commande sur Amazon, avoir ses doigts sur le clavier d'un laptop Apple, poster une vidéo sur YouTube. Dans tous ces cas, vous avez affaire avec un travail invisible. Tout le monde pense avoir affaire avec un ordinateur, avec un algorithme. Tout le monde pense avoir affaire avec une sorte, disons, d'activité d'expression de soi, de réalisation de soi. avec, disons, une activité presque magique. On fait clic et bon, quelqu'un frappe à la porte et nous amène une pizza. Alors, dès qu'on commence à enquêter ces dimensions, on se rend compte que les livreurs à vélo se autodéfinissent des esclaves à pédales, hein, que les gens qui travaillent dans les entrepôts ou dans la livraison des paquets d'Amazon sont traités d'une manière qui fait rêver le Londres de Dickens ou le Paris de Victor Hugo. Dès qu'on commence à se poser la question d'où, par qui et de quelle manière sont produits les produits Apple, hein, avec cette belle pomme, on débarque à Shenzhen, en Chine. Vous savez que les fenêtres des usines Apple sont bloquées par le barbelé, hein, pour empêcher aux ouvriers de se suicider, de se jeter en bas. Et chaque fois que vous postez une vidéo sur YouTube ou vous postez quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, là, vous travaillez gratuitement et vous enrichissez de manière ultra rapide les gens plus riches de la planète. On travaille, on connecte des métadonnées qui instruisent des machines intelligentes. Ce n'est pas le sujet de cette conférence. Mais disons, la stratégie, il y aura une belle conférence d'Antonio Casilli à la fin du mois de mai à l'Emirat. Antonio a écrit un livre qui s'appelle « En attendant les robots ». Et c'est jusqu'à là, à mon avis, la meilleure tentative, disons, de rendre visible tout le travail humain invisible qui se cache, hein, derrière la rhétorique et le dispositif de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, etc. Hein, Alexia ou Siri, Antonio est allé au Madagascar et en Inde pour voir qui parle à la place de Alexa et Siri. Chaque fois que vous l'interpellez, elle ne répond pas. Donc, les damnés de la Terre qui habitent dans des bidonvilles et qui sont cachés, métaphoriquement ou pas, dans chacun de vos ordinateurs. Mais ce n'est pas, je pense, ce n'est pas la seule dimension. Alors, face à ça, il y a la rhétorique dominante. Il y a la grande narration de la fin du travail. Narration qui signifie au moins trois choses. La première, si vous voulez, elle est tellement banale qu'elle ne mérite même pas d'être évoquée, le travail change toujours. Donc, si fin de travail signifie, et c'est la version faible, disons, de la thèse de la fin du travail, que le travail tel que nous l'avons connu, hein, c'est une autre formule très à la page, le travail tel que nous l'avons connu jusqu'à la fin de 30 glorieuses est en train de se métamorphoser, est en train de changer, et que nous ne savons pas aujourd'hui ce que nous appellerons travail demain, alors, cette thèse, elle est tellement banale qu'elle ne mérite même pas d'être discutée. Le travail a été toujours comme ça. Mais sa thèse, dans la formulation dominante, vise à évoquer l'idée d'un grand remplacement. Ce n'est pas le remplacement de blanc par le noir ou des chrétiens par les musulmans. C'est un autre grand remplacement, mais aussi idiot que les autres deux. C'est le grand remplacement des humains par les machines. Vous lisez le New York Times et vous trouvez que le MIT de Boston ou à Oxford ou à Cambridge a publié un suivi de recherche qui démontre que d'ici à 10 ans, le 30%, le 40% de postes de travail seront remplacés. Et la grande nouveauté, et qui ne sont pas les métiers les plus humiliants, hein, la grande nouveauté serait que les machines intelligentes sont arrivées pour remplacer les chirurgiens, les journalistes, les prix Pulitzer ou les prix Nobel de la littérature, les professeurs universitaires, l'avocat, l'oncologue. Donc, ça représenterait une sorte de vraie nouveauté, hein, dans l'histoire de la relation machine-être humain. Et après, il y a la thèse la plus radicale, c'est-à-dire que le travail n'existera simplement plus. Qu'à partir, disons, que d'ici à 20 ans, d'ici à 30 ans, pour des raisons démographiques, c'est-à-dire la population sur la planète est en train d'augmenter, c'était des arguments avant la pandémie bien sûr, hein, est en train d'augmenter à une vitesse impressionnante. Et si on croise la vitesse de la croissance démographique avec l'augmentation de la puissance productive des nouvelles machines, et là vous arrivez à un marché du travail presque vide, un marché du travail où l'offre énorme et la demande tend tendanciellement à baisser jusqu'à zéro. D'où la grande rhétorique de la fin du travail et du début du loisir créatif pour tout le monde. Donc on passera la vie en travaillant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Les machines feront tout à notre place. Et on vivra de quoi? Et ça, c'est la grande question. On vivra d'un revenu universel, on vivra d'un revenu, même pas parler de salaire, non, d'une source de richesse alternative au travail. Alors là, vous voyez que dans cette représentation dominante, le travail perd complètement sa centralité. Alors je me pose une question. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd le travail? Est-ce que le travail est une dimension de la vie humaine à laquelle on peut facilement renoncer? Bien sûr, hein, on renonce très volontiers à un travail aliénant, un travail qui nous exploite, qui nous fait souffrir. Mais je le répète, le travail est avant tout conflit. Et moi, je soutiens la thèse, le collectif Arlib soutient la thèse que malgré tout, et faute de mieux, le travail continue à rester aujourd'hui, car il n'y a pas d'autre alternative. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une version glorieuse, triomphante ou enthousiaste de la thèse. C'est plutôt une version faute de mieux. Quelle autre dimension de la vie humaine, quelle autre dimension de la condition humaine pourrait aujourd'hui autoriser un espoir minimal d'améliorer notre condition? Quelle autre, comment je dirais, possibilité démocratiquement répandue parmi les humains pourrait permettre à la plupart de gens aujourd'hui d'espérer d'améliorer au moins d'un peu sa condition? Moi, je pense que ceux qui visent sur la consommation, sur le loisir, sur toutes les activités de réalisation de soi, l'art, la méditation, les exercices, disons, de construction de ça, vous connaissez cette mode. Hein? Là, je pense que c'est vraiment une illusion, hein, dans le pire sens du terme. Donc, à mon avis, et à notre avis, faute de mieux, le travail reste une dimension des êtres humains auquel il ne faut pas renoncer. Et donc, pour cette raison, vu que le travail aujourd'hui continue à exister beaucoup plus qu'avant, voilà le paradoxe et la fausseté de la thèse de la fin du travail. Il n'y a eu jamais tant d'êtres humains qui travaillent sur Terre. Pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu tant d'ouvriers qui travaillent sur Terre. Pour être plus précise, d'ouvrières. L'accès au marché du travail des femmes en Chine, en Inde, etc., fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu tant d'ouvriers sur la planète. Il n'y a eu jamais tant d'esclaves sur la planète. Aujourd'hui, il y a au moins 40 millions d'esclaves. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement d'esclaves. Et pour terminer, moi je pense, que je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si c'est une évidence autobiographique que vous pouvez confirmer, malgré cette thèse de la fin du travail, moi, je ne connais personne dont la vie ne soit pas occupée, voire colonisée par le travail, la plupart des cas dans la forme de cauchemar, d'un cauchemar chronophage, d'un cauchemar qui dévore la vie, qui occupe une place excessive, ou, exemple, un chômeur, par des gens qui rêvent, qui passent leur vie à chercher un boulot. Peu importe si sale ou pas. Alors, rendre visible la quantité de travail existant aujourd'hui et rendre visible la centralité que le travail continue à occuper dans nos vies aujourd'hui, malgré la rhétorique contraire de la fin du travail et du triomphe de la consommation, nous réalisons en tant qu'êtres humains qu'en consommant. Alors là, je pense, c'est un premier point à fixer. Deuxième point. Je vous ai dit que considérer le travail comme une dimension invisible, refoulée de l'existence humaine, n'est pas une nouveauté contemporaine. Si vous lisez les Grecs, si vous lisez Aristote, Platon, le théâtre, la poésie classique, vous regardez l'architecture, alors là, on a l'impression qu'il y a une ultra-minorité d'êtres humains, ce qui reste, ceux qui ont produit la culture de leur époque, donc la noblesse, l'aristocratie, qui a développé un discours très intéressant, discours selon lequel un vrai être humain ne travaille pas. Discours selon lequel il y a une sorte de relation d'opposition frontale entre travail et humanité. Pourquoi ? Exactement, car le travail est la négation de la liberté. Et un vrai être humain est avant tout un être libre. Et peu importe de quelle manière, mais si tu travailles, tu n'es pas libre. Disait Platon, disait Aristote, le travail est lié à une sorte de double contrainte, de double servitude à l'objet. Donc même l'artisan est un esclave, même le paysan est un esclave, car leur activité est intrinsèquement liée à l'objet à réaliser ou à cultiver, et surtout, double dimension de nécessité, de manque de liberté, qui travaille dans la plupart des cas, est soumis à quelqu'un, à son maître. Et donc, si la vraie dimension de la vie humaine à Grèce, en Grèce ou à Rome, était la politique, si tu étais un être humain dans la mesure où tu participais à la vie de ta police, de ta cité, d'aller dans l'agora, discuter avec les autres, alors pour faire ça, il faut disposer, c'est Hannah Arendt qui le dit d'une manière avec une clarté extrême, disons, le travail des autres, les esclaves, les femmes, les prisonniers de guerre, les animaux, est la précondition invisible afin qu'une toute petite minorité puisse se consacrer à l'activité dite humaine par excellence, notamment la politique. Pas de politique sans esclavage. C'est ça qu'Hannah Arendt écrit dans The Human Condition, la condition humaine. Dans toutes les histoires du travail, de manière un peu exagérée, nous, on n'aura pas le temps de nuancer ou de critiquer ou de contrebalancer cette thèse. Apparemment, il y a un fil rouge de mépris du travail qui arrive au moins jusqu'à la réforme protestante. Je me limite juste pour... Il est super intéressant à mes yeux de regarder ce que les théologues, les théologiens chrétiens écrivent. Là, pendant 4, 5, 6 siècles, ils se cassent la tête avec cette contradiction. Oui, alors, le travail est quelque chose de maudit. Le travail est quelque chose de sale. Adam, il a été expulsé du paradis terrestre, il a été condamné à travailler. Mais est-ce que Dieu a travaillé pendant la création de la terre? Apparemment, oui. Alors, il y a 5 siècles de la meilleure théologie chrétienne qui essaye de nier l'évidence que la création du monde était du travail. Jusqu'à arriver aux ordres Monaco, les bénédictins, etc., là, vous savez, qui, à partir d'un certain moment, font de l'impératif « ora et labora », donc « prier et travail », leur devise. À partir de ce moment-là, le travail commence à devenir une dimension partiellement reconnue, même par la religion dominante de l'époque. Mais ce n'est qu'avec la révolution protestante, avec la révolution industrielle, que le travail commence à occuper une place inédite dans la culture européenne. Avec la réforme protestante, le travail devient une valeur pour le salut de l'âme du croyant. Vous connaissez sûrement la position calviniste. Et disons, dans le calvinisme, dans le sept baptiste, anabaptiste, et dans d'autres sets minoritaires de la réforme protestante, caractérisés par une doctrine de la prédestination de la grâce, Dieu sauve qui veut, le travail et le succès professionnel commencent à devenir le seul indice du fait d'être élu, du fait d'être parmi ceux qui seront sauvés au moment du jugement universel. Alors là, je commence à vous citer un grand classique sur le sujet, je pense que la plupart de vous le connaît déjà, mais c'est le célèbre ouvrage de Max Weber qui s'appelle « Éthique protestante et esprit du capitalisme ». On n'a pas maintenant le temps de discuter la thèse fondamentale de cet ouvrage énorme, écrit en 1904-1905, grand sociologue allemand. Mais là, Weber soutient la thèse que sans la réforme protestante, donc sans l'espoir dans une forme de salut de l'âme après la vie sur Terre, eh bien, le capitalisme n'aurait jamais disposé d'un type de travailleur, l'entrepreneur, le professionnel, disposé à révolutionner complètement la manière de travailler qui était en vigueur jusqu'à là. On reviendra là-dessus. Le deuxième grand élément de changement qui fait du travail, que jusqu'à ce moment-là était, je le répète, une activité méprisée, obscène, indigne de l'homme, car il était conçu comme la négation de la liberté, qui était la vraie dimension de réalisation de l'être humain, est la révolution industrielle. Alors là, malheureusement, on n'a pas le temps de lire, mais j'aurais aimé beaucoup lire avec vous quelques pages issues de l'ouvrage qui est considéré, je pense à raison, la Bible philosophique du capitalisme. Je parle de l'ouvrage de Adam Smith, S-M-I-T-H, qui a un titre très long et qui normalement est cité comme « La richesse des nations ». Et c'est sur l'origine, la nature et les causes de la richesse des nations. 1776, même année de la Constitution américaine. Alors, c'est un pavé de 1000 pages, mais si vous lisez que le premier chapitre, lisez-le s'il vous plaît, vous le trouvez dans Internet avec une facilité énorme. Là, vous avez un vrai génie de la philosophie, Adam Smith, qui fait un exercice admirable de description de la réalité. Un exercice qui aujourd'hui serait autant nécessaire. Qu'est-ce qu'il fait Smith dans cette page? Il rend visible l'invisible. Exactement comme les gens qui aujourd'hui s'occupent de livreurs à vélo, d'Amazon, d'Apple, etc., qui montrent, de l'intelligence artificielle, qui montrent que derrière ce rideau opaque, apparemment automatisé, il y a du travail vivant, il y a du travail humain. Smith fait la même chose, tout en instituant un parallèle entre un pauvre paysan écossais de son époque et le plus riche, attendez, je cherche la citation, le plus riche roi d'Afrique. Et pendant trois pages, il ne fait que décrire la quantité de travail qui est incorporée dans le misérable vêtement que cet homme porte sur soi. Cet homme n'a qu'un pantalon, qu'un pull, que deux chaussures pour toute sa vie. Et là, Smith commence à rendre visible l'énorme quantité, l'infinie quantité de travail. La laine, le mouton, les ciseaux, le bateau qui allait dans les colonies pour tisser, etc. Ce sont des pages vraiment d'une beauté extraordinaire qui visent à démontrer quoi? À démontrer que dans la marchandise la plus simple, à l'époque c'était les épingles. Probablement quelqu'un de vous connaît ce chapitre, le chapitre 1 de La richesse des nations pour ce passage magnifique sur la manufacture d'épingles, dans laquelle Smith exalte la puissance productive de la division du travail. Alors là, grâce à Smith, le travail devient visible. Et c'est juste grâce à la convergence de révolutions protestantes et des révolutions industrielles, et ça c'est un peu la troisième étape de notre voyage, que le travail cesse, dans l'histoire européenne, on est à la fin du XVIIIe, d'être une activité invisible, obscène, dans le sens théâtral du terme, qui doit rester caché hors de la scène, donc derrière les coulisses, et devient quoi? Et là, c'est la grande thèse que André Gorz défend dans son livre « Métamorphose du travail ». Le travail, à partir, disons, de la fin du XVIIIe, devient trois choses à la fois et occupe, disons, trois fonctions, commence à exercer trois fonctions que jusqu'à là, il n'avait jamais exercées. Et ça, selon le spécialiste, c'est la plus grande révolution que le travail connaît. Alors, avant tout, le travail devient une source de richesse. Ça vous fera probablement sourire. Non? C'est presque une banalité pour nous, le fait que le travail est une source de richesse. Mais jusqu'à là, juste pour vous rappeler une chose, en France, le débat économique avant cette thèse était dominé par le physiocrate, pour les économistes avant la lettre, qui soutenait que toute richesse originait de la terre, mais pas de la terre travaillée. C'était Dieu qui avait mis dans la terre la richesse, et le travail de paysan ne produisait pas de la richesse, ne faisait que découvrir la richesse qui était déjà dans la terre grâce à l'intervention divine. Et l'autre grande source de richesse, c'était bien sûr la rente immobilière, avoir un terrain, avoir un château, etc. Bon, à partir de la fin du XVIIIe, le travail devient pour la première fois source de richesse. Mais la révolution ne se limite pas à ça. La grande métamorphose ne se limite pas à ça. Il devient aussi la matière dont est issu le lien social. Et ça, vous comprenez, c'est une vraie révolution. C'est un vrai renversement par rapport à la manière ancienne, antique de considérer le travail. Je vous explique la chose dans la manière la plus brutale possible. À Athènes, si tu travaillais, tu n'étais pas un citoyen. Travailler signifie être exclu de la communauté politique. Être un travailleur, donc notamment un esclave, un prisonnier de guerre, une femme, ça signifie ne faire pas partie de la cité, de la police. Là, à partir de la fin du XVIIIe, c'est exactement la vision contraire qui s'impose. Et c'est une vision, si vous voulez, qui, bon, malgré infinie attaque, malgré infinie mutilation, continue d'une manière ou de l'autre à exister encore aujourd'hui. On est citoyen dans la mesure où on travaille. Vous comprenez, le travail devient la base du lien social. Troisième métamorphose, troisième révolution, le travail devient le vecteur privilégié, voire exclusif, de la réalisation de soi. À partir de cette époque, et après dans le 19e, cette tendance explosera, la réponse à la question « qui je suis ?» ou surtout de la question « qui je aimerais être ?»« qui je voudrais être ?» la réalisation de soi, trouve dans le travail sa réponse. Donc, loin d'être la grande antithèse à la liberté et à l'émancipation, le travail commence à devenir les vecteurs, voire l'arme, l'instrument privilégié pour réaliser soi-même. Alors, je ne sais pas si la chose continue, ce n'est pas sûrement comme ça chez les adolescents aujourd'hui. Mais si vous posez encore aujourd'hui à un enfant la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras un adulte ?» bon, moi je pense que dans la plupart des cas, il vous répondra tout en citant un métier, un travail, une profession, astronome, vétérinaire, médecin, voyageur. Alors là, vous voyez le lien profond qui relie le travail aux besoins les plus profonds de réalisation et d'émancipation des êtres humains. Suite à cette métamorphose, c'est la quatrième étape de ce voyage qui sera bientôt terminée, vous avez le 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est vraiment l'explosion du travail. C'est le travail qui devient une idéologie. C'est le travail qui devient la ligne du feu qui sépare deux fronts, un champ de bataille. D'un côté, il y a les maîtres du travail, les propriétaires du travail. Il y a les bourgeois, il y a les capitalistes. Donc à vous de choisir le terme que vous préférez dans vos romans de famille. Et de l'autre côté, il y a la classe ouvrière, il y a le mouvement ouvrier, il y a les prolétaires, il y a les travailleurs. La politique, la littérature, la philosophie, les rêves de l'Europe au 19e sont monopolisés par le travail. Toutes les utopies, tout ce qui peut changer en mieux, d'une manière imprévue, la vie individuelle et collective, trouve dans le travail, tôt ou tard, son lieu et son vecteur de réalisation. Je vous épargne ici, mais bon, pensez au grand roman, pensez au grand roman bourgeois, et pensez au grand roman socialiste, pensez à la naissance du socialisme, dans ses, je sais pas, au manifeste du Parti communiste. Bon, la grande narration, la manière, disons, de penser la vie et d'espérer dans l'histoire, se nourrit du travail. Et c'est là vraiment, c'est le grand moment où, si vous voulez, selon une version individuelle, hein, dans la version bourgeoise, l'entrepreneur qui est le héros de sa propre vie, qui est une sorte de diable et d'ange obsédé, possédé par sa mission, hein, de s'enrichir, mais aussi de se réaliser, de transformer la vie, la sienne et celle de se subordonner, de se salarier d'un côté. Et de l'autre, bon, le grand rêve, là, je pense de dire quelque chose que tout le monde connaît, le grand rêve, disons, que les damnés de la terre, que les misérables, que le working poor, que cette contradiction vivante, non? Si le travail est source de toute richesse, ça c'est la première chose que le jeune Marx écrit sur son journal intime quand il arrive à Paris en 1844, dans sa chambre de Bonne, et la suivante, il commence à lire le texte de Smith que je viens d'évoquer, et il se pose une question, mais pourquoi si le travail est la source de toute richesse, tous ceux qui passent leur vie à travailler sont des misérables, et tous ceux qui ne travaillent pas sont des millionnaires? Et si le travail est prêt à payer pour la liberté, ça c'est Smith qui le dit, et le jeune Marx fait son commentaire, et bien alors, la bourgeoisie va payer cher ce prix. Et là, vous avez, pour la première et dernière fois dans l'histoire, l'espoir structuré, articulé, organisé, disons, la première internationale, la naissance du mouvement communiste, socialiste, etc., que les derniers de la Terre, que les humiliés, les damnés de la terre deviendront la classe dominante à travers la libération de l'activité, notamment le travail, qui fait de cette classe les esclaves du capital. Là, je pense qu'on est déjà entré dans les romans des familles, on est déjà entré, disons, dans cette dimension du passé que toute narration, que toute idéologie intéressée aujourd'hui a la tendance à liquider comme de la mauvaise mélancolie. Et qu'une gauche, disons, qui n'a pas élaboré suffisamment son deuil, continue d'une manière indirecte ou directe à reproposer comme une sorte de dimension à récupérer. Moi, je pense que cette dimension ne peut pas être récupérée, car ce qui nous sépare du 19e, c'est exactement le 20e siècle. Et le 20e siècle, si vous voulez, cache derrière la formule anodine et synthétique de compromis fordiste une réalité brutale. Moi, je connais personne que mieux que Simone Veil, dans son journal d'usine, a été capable de restituer d'une manière lucide, honnête et cruelle le démenti de tout espoir révolutionnaire lié à la condition du travailleur. Je pense qu'on est en France, donc j'espère, je ne pense pas, mais j'espère que la plupart de vous connaissent Simone Veil. C'est Simone Veil, cet incroyable philosophe, le plus grand philosophe de tous les temps, à mon avis, mais surtout du 20e. Vous connaissez surtout son histoire, non? Qui était son père, qui était son frère, la famille Veil, la famille où Trotsky, qui fuit de l'Union soviétique pour aller chercher en se liant possible au Mexique. Il reste à Paris avec le Veil pendant 3 mois. Et Simone, qui est avec Simone de Beauvoir, la première normalienne, première femme, première fille à étudier la philo en 1908, à un certain moment, marxiste convaincu, se pose la question fatale. Mais pourquoi les ouvriers ne font pas la révolution? Si Marx et Lénine ont raison, Marx et Lénine écrivent ces nouvelles dans ce journal qui n'ont jamais mis pied dans une usine, qui n'ont fait qu'écrire de belles théories, mais n'ont jamais connu une seule seconde le travail à l'achat, à la chaîne. Alors, avec des énormes difficultés, grâce à l'intervention de syndicalistes et des amis, Simone se fait embaucher. Et ce qu'elle écrit dans son journal intime, j'espère vous trouver le texte, est d'une beauté et d'une amertume sans précédent. je trouve ce texte, mais je ne le trouve pas. C'est toujours comme ça dans une conférence. Désolé. Ah, voilà. Pour moi, personnellement, voici que ça veut le dire travailler en usine. Ça veut le dire que toutes les raisons extérieures, je les avais crues antérieures auparavant, sur lesquelles s'appuyaient pour moi les sentiments de ma dignité, le respect de moi-même, ont été en 2 ou 3 semaines radicalement brisées sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Il ne croit pas, elle écrit une lettre à un ami, hein, il ne croit pas qu'il en soit résulté à moi des mouvements de révolte. Non, mais au contraire, la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même, la docilité, une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait que je tenais pour attendre, pour recevoir, pour exécuter des ordres, que je n'avais jamais fait que ça, que je ne ferais jamais que ça. Je ne suis pas fier d'avouer tout ça. C'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle. Ça fait trop mal, même d'y penser. Quand la maladie m'a contrainte à m'arrêter, j'ai pris pleinement conscience de l'abaissement où je tombais. Je me suis juré de subir cette existence jusqu'au jour où je parviendrai, en dépit d'elle, à me ressaisir. Je me suis tenu parole. Lentement, dans la souffrance, j'ai reconquis à travers l'esclavage le sentiment de ma dignité d'être humain, un sentiment qui ne s'appuyait sur rien d'extérieur cette fois, et toujours accompagné de la conscience que je n'avais aucun droit à rien, que chaque instant libre de souffrance et d'humiliation devait être reçu comme une grâce, comme le simple effet de hasard favorable. Il y a 2 facteurs dans cet esclavage. Elle parle du travail à l'usine, hein, capitaliste. La vitesse et les ordres. La vitesse. Pour y arriver, il faut répéter, mouvement après mouvement, à une cadence qui, étant plus rapide que la pensée, interdit de laisser cours non seulement à la réflexion, mais même à la rêverie. Il faut, en se mettant devant la machine, tuer son âme pour 8 heures par jour, même plus. Sa pensée, ses sentiments, tout. Étant irrité, triste, dégoûté, il faut ravaler, refouler tout au fond de soi. Irritation, tristesse, dégoût. Il ralentirait la cadence. Et la joie de même, les ordres. Depuis qu'on pointe en entrant, jusqu'à ce qu'on pointe en sortant, on peut à chaque moment recevoir n'importe quel ordre. Et toujours il faut se taire, il faut obéir. L'ordre peut être pénible ou dangereux à exécuter, ou même inexécutable, ou bien de chef dont des ordres contradictoires. Ça ne fait rien. Se taire et plier. Cette situation fait que la pensée se rétracte, comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être conscient, on ne peut pas être libre quand on travaille. Ce texte, si je me trompe pas, si je me souviens bien, a été écrit en 1935, ou 36, ouais, je pense, fin 35, début 36. Et c'est le texte, selon, disons, la plupart de spécialistes, un texte, disons, basé sur une expérience vraie d'usine, pas l'idéologie du travail, mais l'expérience directe, l'expérience vécue du travail vivant à la chaîne. Eh bien, dans ces pages, dans les pages du journal intime de Simone Veil, selon la plupart des interprètes, les 2 dimensions, travail-liberté, travail-émancipation, qui au début du 18e, avec le début du travail ou l'invention du travail tel qu'André Gorz le nomme, et que surtout au 19e, avec l'explosion du travail qui devient une idéologie mobilisatrice pour les 2 classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, qui occupent le centre de la science sociopolitique européenne, eh bien, dans ce page, cette illusion-là que travail et émancipation qui pendant des siècles, n'avaient aucun lien vertueux selon les interprétations dominantes de la culture européenne, bien, ils avaient trouvé finalement cette relation, cette vertueuse, eh bien, selon les experts, Simone Veil met sous les yeux l'évidence que être exploité au travail, qu'être aliéné, qu'être traité dans une manière inhumaine, n'implique pas automatiquement nourrir un sentiment de révolte, n'implique pas automatiquement nourrir un sentiment révolutionnaire, mais plutôt le contraire, mais plutôt, disons, une forme de docilité résignée qu'aujourd'hui, dans le débat, aux normes de préférence, servitude volontaire ou bien manque d'alternative. Et c'est sur cette base d'évidence, là, ma conférence est plus ou moins terminée, que travail et liberté se séparent, commencent à diverger par rapport à la manière classique ou glorieuse dans laquelle leur lien avait été interprété tout au long du 19e, que le compromis fordiste, qui à mon avis, d'une certaine manière, c'est Daniel Dennard, par exemple, qui l'explique très bien, continue à dominer encore la relation de la plupart de nous aujourd'hui au travail, donc une sorte de liberté grâce au travail ou malgré le travail, un échange plus ou moins conscient entre exploitation, aliénation, abrutissement, docilité d'un côté et salaire de l'autre. Un salaire qui peut être interprété bien sûr comme un élément, un dispositif nécessaire à la survie, mais que dans les moments où il y a toute une célébration, une apologie de la dimension de la sphère de la consommation, devienne aussi un vecteur, à mes yeux, illusoire et idéologique de liberté et de libération. Bien, c'est dans ces paysages clivés, contrastés, contradictoires, que le groupe Arlib s'interroge aujourd'hui sur la possibilité plus ou moins utopique de renouer ces deux dimensions essentielles de la vie humaine, travail et liberté, que la culture européenne a pendant des siècles considérées opposées, antithétiques et séparées, et qui, pendant une saison très courte et glorieuse qui est définitivement derrière nous, ont été considérées comme deux dimensions qui auraient pu se renouer. La question est là. Est-ce qu'il y a encore une possibilité devant nous? Et la pandémie, bien sûr, joue un rôle fondamental dans le moment où on se pose cette question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une possibilité devant nous, donc une possibilité rénovée, de repenser et de réorganiser nos existences et le travail qu'on mène, tout en ayant comme horizon des nouvelles formes de libération individuelle et collective? Je vous remercie pour l'attention et je suis à votre disposition pour le débat. Merci.
Merci beaucoup, Enrico, de ce bel exposé. Je crois que les participants vont avoir besoin de quelques minutes pour digérer tout ce que tu viens de nous dire. Moi, ça m'amène à penser au désarroi qu'observaient les travailleurs lorsqu'ils ont eu leur premier congé payé. Ils ne comprenaient pas qu'ils puissent être payés sans travailler.
On laisse un peu d'espace aux questions. Vous vous êtes organisé comment, normalement?
Chacun pose la question. Ou pose les questions comme il veut. J'avais proposé d'écrire des questions dans le chat, mais il n'y en a pas eu. Donc, on va attendre que les questions arrivent.
Martine Quignol, merci beaucoup pour ce très bel exposé, très intéressant. Est-ce que le revenu universel qui est proposé, est-ce que c'est une solution pour concilier liberté et travail, selon vous?
Alors là, à être honnête, mes sentiments sont très contrastés. Vous le savez, je pense mieux que moi, il y a 10 000 théories sur le revenu universel. Non, il n'y a pas encore une position qui monopolise le débat. Alors moi je dirais comme ça, disons, dans la mesure où on peut considérer le revenu universel comme un élément parmi d'autres qui apporte, disons, un élément de source de richesse dans une situation où le travail devient rare, difficile à repérer, structurellement insuffisant, je suis d'accord. Là où je suis contre, si vous voulez, c'est une position qui domine l'ultra-gauche aujourd'hui, tant en Italie qu'en France. Position soutenue surtout par de jeunes, bon, vous connaissez mieux que moi, je pense, de jeunes normaliens qui ont des rêves philosophiques plutôt farfalus, complètement détachés de la réalité. Alors là, dans la mesure où il s'agit, disons, de renoncer ou de refuser le travail comme dimension de réalisation de soi, comme espoir de faire basculer les rapports de force à sa faveur. Alors là, je suis complètement contre, par contre. Donc, disons, l'idéologie du revenu universel qui domine surtout à la gauche radicale européenne, moi, je trouve que c'est une forme de rêve adolescentiel, mais qui accepte, disons, une position de subordination structurelle. On a beaucoup discuté de ça avec Emmanuel Doquès il y a 2 ou 3 semaines. Il était aussi complètement d'accord sur ces positions-là. Il y a une sorte de projection, disons, enfant-parent, comme si ceux qui octroieraient ce revenu universel étaient de bons pères et de bonnes mères qui vont gâter à l'infini leurs petits enfants. Moi, je pense que la réalité ne serait jamais celle-là. Ce que je trouve aussi intéressant, bon, on peut discuter alors, mais vous savez, je viens d'un pays où le mouvement 5 étoiles, qui est un parti populiste, bon, moi je le trouve de droite, mais un hybride, a gagné les élections car il a obtenu le 100% de vote dans les collèges à sud de Naples, chose impossible à obtenir sans la collaboration de la mafia en Italie, tout en promettant le revenu universel. Les jours après les élections, à 5 heures du mat, il y avait de queues kilométriques face au bureau de poste et aux banques, tous les villages, tous les gens étaient là pour avoir les revenus de celles qui n'ont jamais eu 100% de la population. Vous passez la frontière entre l'Italie et la Suisse, et là, je pense, vous le savez, en 2016, il y a eu ce référendum qui demandait aux Suisses s'ils accepteraient d'avoir, je crois que c'était 2600 ou 2700 euros par mois de la naissance à l'enterrement, même s'ils ont un travail. Donc, juste pour n'être pas obligé à accepter un travail humiliant. Et le 83 ou le 86% de la population a répondu non. Donc, c'est bizarre. Dans deux pays, l'un à côté de l'autre, ou avec cette tromperie, avec ce mensonge, car c'était une mensonge électorale, ce n'était pas la réalité, tu obtiens le 100% du consensus dans la région plus pauvre d'Europe et où la criminalité organisée remplace l'État, je parle de l'Italie, vous devez penser à l'Amérique du Sud plus ou moins. Et au-delà de la frontière, le 83 ou le 86% de la population dit non. Le pire score du Parti socialiste en France, je pense, c'est au moment où son candidat présidentiel met le revenu universel sous le drapeau du PS. Il fait les 5%, je me trompe vraiment. Alors là, c'est bizarre. Donc, il y a sûrement des cultures locales plus ou moins lié, quelqu'un dit encore, à la culture protestante, à la culture chrétienne, etc. Mais là, je pense que défendre une position comme celle que je défends et qu'Arlib défend, disons, de la centralité du travail, ça ne signifie pas refuser a priori de forme, disons, intégrative au salaire, ni défendre le salariat. Il y a des paradoxes du salariat. Pensez au cas de livreur, non ? Le food. Le fait qu'en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, ils font des combats pour devenir salariés. Ils font des combats pour, disons, gagner des protections en devenant subordonnés. Je pense que ça nous indique qu'il y a un paradoxe du salariat à dépasser, donc c'est détaché, protection et régime salarial. Mais aujourd'hui, disons, dans le manque d'alternatives, de gens qui sont faussement considérés comme des auto-entrepreneurs ou de petits entrepreneurs, en réalité, ils se auto-définissent, ils sont des esclaves à pédale, luttent pour leur subordination, formellement, juridiquement, luttent pour être reconnus comme les salariés de Uber Eats ou de Foodora ou de Deliveroo. Ce qui est bien bizarre, non? Donc, là encore, je pense qu'on a devant nous la tâche d'inventer une forme alternative au salariat de protéger le travailleur, de leur donner des droits, de la protection, etc., qui ne soit pas, disons, la proposition du salariat tel qu'on l'a connu au 20e, encore mieux, encore moins au 19e. Mais si tu veux, le refus du travail que je constate déclaré ou caché derrière la plupart de collègues et de militants qui luttent pour le revenu universel, c'est quelque chose qui me laisse un peu inquiet. J'exagère un peu et je termine, mais je pense que si on renonce au travail, on renonce, je l'ai dit au début, probablement je me trompe, on renonce à la dernière arme faible, obsolète, dans des conditions terribles, mais c'est encore une arme qu'on a dans nos mains. Si on renonce à ça, je me pose la question, qu'est-ce qui nous reste? Que attendre la concession de quelque chose? Et là, c'est Smith qui le crie de manière très claire. Il n'y a rien de pire dans la vie que de passer la vie en attendant que quelqu'un de plus riche que nous nous donne quelque chose. Donc, c'est une forme de dépendance extrême à mes yeux, les revenus universels, en tant que tel. S'il devient un élément dans un mécanisme complexe, qui intègre en partie, alors là, le jeu peut devenir intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pour poursuivre sur le revenu, je te faisais part, Enrico, de cette expérience qui a eu lieu à Grenoble, de cette boulangerie coopérative qui avait décidé au moment de la création de cette boulangerie, de la création de cette coopérative, du même salaire pour tous. Et le salaire était de 1 600 euros net par mois pour chacun. Et puis, à un moment, ils se sont rendus compte que certains avaient davantage de besoins, les uns par rapport aux autres. Et ils ont essayé d'expérimenter, enfin, ils ont expérimenté le revenu aux besoins. Et donc, ils ont demandé à chacun, combien voulez-vous gagner? Tout le monde voulait gagner davantage, c'était parfois 100 euros ou 250 euros, jusqu'à 500 euros, ce qui a engendré des transformations extrêmement importantes de cette entreprise. Et ils sont passés de 25 coopérateurs à 50 coopérateurs, c'est-à-dire qu'il y a eu autant de nouveaux arrivants que les fondateurs de cette expérimentation, et qui n'avaient pas l'expérience, et qui n'avaient pas la culture, et qui n'avaient pas l'habitude de cette forme de travail, de cette forme de coopération. Et là, ils en sont à se demander s'ils doivent ou pas arrêter ce revenu aux besoins et revenir à un salaire égal pour tous. Et pour compléter, moi, je connais bien les camarades de Scopti qui sont à Gémenos, qui ont racheté l'usine de thé et infusion qui appartenait à une île verte. Et les copains me disent, ce qui a été le plus difficile, c'est de changer l'état d'esprit des travailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus des travailleurs, ils devenaient des coopérateurs. Et lorsqu'ils n'avaient plus rien à faire, donc ils pouvaient rentrer à la maison, puisqu'ils avaient rempli le travail qu'ils devaient faire, ils ont eu beaucoup de difficultés à dire « je vais donner un coup de main à un autre collègue qui, lui, est un peu en retard et je vais balayer ou je vais mettre en boîte ». Donc, c'est cet état d'esprit qui a été très, très compliqué à faire passer dans l'esprit et dans le fonctionnement de ces camarades.
Ouais. Non, je pense que ce que tu dis est très important dans le sens que, alors, si tu veux, alors, d'un côté, nous avons une sorte de discours, de représentation, comment dirais-je, monolithique, non, disons, c'est le célèbre, le funeste slogan TINA, non, il n'y a pas d'alternative. Tous les médias, tous les politiques, le discours dominant est là pour nous mettre dans la tête l'idée que le monde tel qu'il est ne changera jamais et que le travail fait partie de cette dimension qui ne peut pas être modifiée. Et donc là, c'est un peu l'idée pour moi, disons que par contre, le travail constitue une des rares possibilités de changement. Mais cela ne nous doit pas amener à une sorte de rhétorique, comment je dirais, héroïque, non, des expérimentations, des utopies. Alors, il y a énormément de cas comme celui que tu viens d'évoquer. Nous, à Arlib, on les appelle les utopies nécessaires. Il y a énormément de lieux où des hommes et des femmes ont commencé à travailler autrement, ce qui démontre le fait que Tina n'est pas en destin, hein, qu'on peut, moi je pense que collectivement, hein, moi je suis convaincu que tout seul, tu peux rien faire, hein, il est impossible de se sauver tout seul, mais que tu peux avec les autres, et surtout avec des gens qui travaillent avec toi, tu peux commencer à changer les choses. Mais là, il faut être clair, et l'exemple que tu évoques de Skopti, il y a un des films, il y a beaucoup de films et beaucoup de documentaires sur Skopti. Le dernier, malheureusement, j'ai oublié le titre maintenant, je te passerai l'info, montre ça de manière exemplaire, que la liberté est lourde, que l'autogestion est lourde. Donc, que devenir, disons, que reprendre la main sur son travail et par là sur sa vie, bon, c'est pas une vacance, c'est pas un voyage de plaisir. C'est quelque chose de hyper compliqué, qui n'est pas à la portée de tous, et que la tentation de déléguer, hein, la tentation de la décharge, la tentation de laisser aux autres la tâche de nous diriger, hein, de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser, elle est très forte. Elle est très forte. Et fait vraiment, moi je me suis occupé, tu l'as rappelé beaucoup de. J'ai édité en Italie les discours de la servitude volontaire de la Boétie. À partir de là, je me suis vraiment interrogé sur ce trou noir de toute pensée de l'émancipation. Toute pensée de l'émancipation implique que l'homme est un animal qui désire au maximum degré la liberté, qui rêve d'être libre. Alors, toutes les évidences sont contre cela. Bon, il y a surtout lorsqu'il se trouve dans une dimension collective, la masse, la foule. Les êtres humains rêvent d'avoir un chef, d'avoir un dictateur, d'avoir quelqu'un qui leur dit, hein, un grand inquisiteur. Alors, juste pour terminer, nous, hommes et femmes de gauche, on se casse la tête pour mettre nos outils conceptuels, politiques, d'analyse de la réalité à l'auteur du temps. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe sur l'autre front. Alors, sur le front droit, nous avons des discours, nous avons des slogans sur la patrie, sur la famille, sur la femme, etc., qui auraient été, moi je pense, honteux quand? Au 19e? Probablement au 18e. Non? Le racisme, le sexisme, et ça marche merveilleusement. Là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi diffuser, disons, des slogans si barbares, hein, si obsolètes, si je sais pas quoi, ennemis, disons, pas seulement de lumière, de la dignité humaine. Donc là, tu gagnes toutes les élections possibles imaginables. Regardez Trump, regardez l'Hongrie, la Pologne, la France, l'Italie. Alors, nous avons, vous savez, non, il y a le gouvernement de Draghi et le seul parti qui est resté à l'opposition, Fratelli d'Italia. Il a été fondé par la nièce de Benito Mussolini. Donc, ce n'est pas du fascisme indirect, c'est une entreprise de famille. Et selon les sondages, ils vont arriver aux 40% à la fin de l'année. Donc, alors, pourquoi le fascisme, appelons le populisme avec son vrai nom, pourquoi le fascisme est une reproposition presque telle qu'elle, dans un scénario qui a complètement changé? Non, il y a la globalisation, il y a tout la. Le phénomène migratoire, etc. Mais en tant que philosophe, en tant que quelqu'un qui travaille avec les idées, pour moi, c'est un mystère, ce décalage entre une gauche qui n'existe plus, mais qui est encore formée, une gauche potentielle, qui est encore formée par des hommes et des femmes qui se cassent la tête à chercher de trouver de nouveaux outils, de renouer d'une manière pas stérile, pas nostalgique avec le passé. Et face à toi, tu as des gens qui disent qu'il faut violer toutes les femmes, tuer tous les noirs et expulser tous les étrangers, et ils ont les 50 ou 60% aux élections. Ça, j'ai du mal à comprendre ça. Alors, une anthropologie politique un peu plus nuancée, qui te fait comprendre qu'à côté de la passion pour l'émancipation, tu as aussi des passions identitaires, grégaires, de soumission, de servitude, hein. Le faible qui domine, le moins faible qui domine le plus faible. Ça aide un peu à comprendre. Et juste pour terminer, quand le travail, je pense que l'histoire de Marseille démontre ça, hein, quand le travail, quand il y avait encore du travail, disons comme ça, bon, tous les nouveaux arrivants, peu importe si italiens, maghrébins, arrivaient dans une ville comme Marseille et devenaient de camarades. Non, devenaient, bon, bien sûr, il y avait du racisme, je ne veux pas faire de la rêverie ou de la nostalgie, mais le travail s'est toujours démontré comme une manière très efficace d'intégrer des gens qui arrivaient des cultures, des sociétés, des nations différentes. Une fois que le travail n'est plus là, une fois que le travail devient rare et il y a une concurrence terrible sur les postes de travail, le racisme explose. Donc, le parti nazi était un parti national-socialiste. Il faut toujours se souvenir de ça. Il y avait aussi un côté funeste, mais même eux avaient compris ça, que le travail intègre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, je voulais vous demander, très bonne intervention, j'ai beaucoup apprécié. On n'a pas beaucoup parlé de la notion de partage du travail. Est-ce que ce n'est pas une solution à creuser pour la gauche, dans la mesure où le gâteau étant toujours le même, il faudra bien partager le travail à l'avenir, sinon ça va être une armée de gens exclus. Mais le revenu universel n'est pas une solution, c'est une situation où on maintient les pauvres dans leur pauvreté. Le partage du travail n'est-il pas une meilleure solution pour l'avenir de la gauche? Je voulais savoir votre avis là-dessus. Merci. Oui.
Alors, je me limite à citer, car j'étais complètement d'accord avec lui, et il formule ça d'une manière beaucoup plus évocatrice que la mienne. Alors, dans le débat que l'on a eu il y a 2 semaines avec Emmanuel Dauquès, qui était prof de droit du travail à Paris, à Nanterre avant et à Lyon maintenant, Emmanuel a écrit ce livre qui s'appelle « Voyage en mésarchie ». C'est une sorte de reproposition d'une utopie à la 18e siècle. La mésarchie, c'est le pays de rêve où les êtres humains détestent le pouvoir. C'est un pays qui se base sur la haine pour le pouvoir. Alors là, il y a une obligation de travailler 15 heures par semaine, pas plus que ça. Et ça, ce n'est pas taxé. C'est sympa, ça. Non? Donc, il y a une obligation à travailler moins et à travailler tous. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette utopie est qu'elle ne veut pas changer les êtres humains, mais plutôt elle veut exploiter au profit de l'utopie toute une série de passions humaines qui seront toujours là, même dans le meilleur monde possible, notamment l'avidité. Donc à partir de la première minute après les 15 heures, tu commences à taxer les gens comme des fous. Tu les taxes aux 70%, 80%, soit l'employeur, soit le salarié. Alors, c'est le vieux slogan, non, travailler moins, travailler tous, c'est le 35 heures, le 32 heures, le 30 heures, qui se sont avérés comme une utopie très, très, très problématique, très complexe, y compris du côté syndical, pas seulement du côté patronal. Mais moi, je pense que là, ce que vous indiquez, à mes yeux, représente un premier pas réaliste et nécessaire. Quand je constate, je ne sais pas quelle est votre expérience, qu'il y a aujourd'hui un partage inégal, même entre ceux qui travaillent comme de fous, qui font le boulot de 2-3 personnes, et après qui craquent, non, qui font un burn-out, une dépression, et une énorme armée de gens qui sont au chômage. Donc, mieux distribuer le travail réellement existant, avec un système de taxation, un système, disons, de limitation de heures de travail, bon, je suis complètement d'accord avec vous sur ce point. C'est un premier pas d'une politique de gauche.
Mais parce qu'en ce moment, on dérégule beaucoup.
Oui, mais on fait exactement le contraire.
Oui, on fait exactement le contraire.
On délocalise, on déréglemente.
Oui. Exactement. Ouais.
Merci.
Merci à vous.
J'ai invité Emmanuel Dauquès. Il fera un exposé le 21 juin.
Super.
Ouais, j'ai entendu sa conférence, c'est absolument
décroché. Ouais. Vous régalerez. Hein,
Je suis heureux qu'il ait accepté.
Il est vraiment fort. Ouais. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on peut se saluer et se donner rendez-vous à la semaine prochaine, je pense.
Il y a des spécialistes du travail, ça m'étonne de ne pas les entendre.
Et la démocratie dans tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait?
Oh, bonne question. Alors, ce qui m'étonne, là, je ne veux pas devenir polémique, mais ce qui m'étonne, que dans la plupart, disons, de, oui, on peut dire comme ça, disons, la démocratie représente pour la plupart de critiques de gauche du travail aujourd'hui
Merde.
la dernière frontière possible de l'utopie. Je pense au livre d'Alexis Cucquier, démocratie, le travail démocratique. Aux centaines d'articles de livres qui ont pour slogan démocratiser le travail. Là, c'est bizarre. D'un côté, si vous voulez, c'est réaliste. La démocratie est quelque chose de sérieux. Mais de l'autre côté, ces mêmes collègues, ces mêmes amis, sont à tel point spécialistes de la démocratie et de ses pathologies. La démocratie n'est pas, disons, un médicament magique.
Ah, oh, ça marche pas.
Vous avez les micros à couper. Et la démocratie, je disais, n'est pas une formule magique capable de résoudre tous les problèmes. Alors là, je constate avec une certaine surprise que le concept de démocratie proposé par la plupart de ce défenseur de la démocratie du travail est un concept plutôt naïf. Donc un concept qui ignore ce qu'il démontre connaître très bien et trop bien quand il critique, disons, par exemple, l'État démocratique, que démocratiser le travail risque de rester un slogan vide si proposé dans cette manière plutôt naïve. Donc, pour répondre de manière un peu brutale à votre question, moi je pense qu'on peut demander un peu plus que la démocratisation du travail. Que la démocratiser le travail risque d'être un slogan conformiste dans une certaine manière de s'approcher à ce sujet.
Voilà, donc la lutte des classes est plus que jamais au goût du jour.
Non, pas du tout. Heureusement, malheureusement, pas du tout. Mais donc, cette alternative si rigide et dogmatique, heureusement, est derrière nous. Donc, on ne vit plus dans cette époque-là où on le pouvait contreposé de cette manière plus ou moins ironique, démocratie bourgeoise et lutte des classes prolétaires. Heureusement, on n'est plus là.
Une dernière intervention, une dernière question. Eh bien, Enrico, il nous reste à te remercier vraiment très fort. Bel exposé, vraiment très, très intéressant. Et puis, moi, je suis content que tu aies évoqué Simone Veil parce que elle n'a pas travaillé longtemps à l'usine, mais elle a rapidement compris.
Ouais, Mais il faut dire que ce n'est pas la ministre, hein, il faut préciser.
Non, 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 c'est l'autre, c'est l'autre Simone.
Oui, il faut préciser.
Eh bien, encore grand merci,
Merci.
Enrico. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, nous nous retrouvons lundi prochain sur le même sujet avec Christophe Massot et José Ross, qui vont eux aussi nous régaler, qui ont une approche assez différente de celle d'Enrico. Enrico est philosophe, Christophe est docteur en économie, José Rose, lui, est sociologue. Donc ce seront des points de vue différents, mais c'est toujours, enfin, moi, ça me paraît intéressant d'avoir ces regards croisés, justement, qui nous permettent de mieux comprendre. Grand merci à toutes, grand merci à
Merci.
tous et à
Au
lundi prochain.
revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir et merci. Bonsoir.